Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Charline. Cela fait 6 mois qu'elle exerce à Nantes en tant que praticien en hypnose spécialisée dans la périnatalité. Une nouvelle expérience professionnelle qu'elle a décidé de démarrer après l'obtention de son diplôme d'infirmière. Bonne écoute! Bonjour Charline!
Bonjour!
Je suis ravie de te recevoir à mon micro aujourd'hui.
Moi aussi.
C'est toi qui m'as contactée sur Instagram il y a quelques... Je perds un peu la notion du temps, mais quelques semaines en arrière. Je te remercie pour ça parce que t'as un parcours qui est très intéressant. Et puis il y a une notion de reconversion aussi que je trouve assez passionnante. Et pour démarrer, je te laisse te présenter pour les personnes qui nous écoutent.
Ok. Alors moi c'est Charline, j'ai 32 ans, je suis originaire d'Angers et j'habite à Nantes depuis quelques années maintenant. Je suis paxée et je suis la maman de Félix qui aura 2 ans dans quelques semaines. Je pratique le yoga depuis un peu plus de 2 ans maintenant, ce que j'avais commencé en prénatal et j'ai poursuivi après et je suis une férue de lecture. Voilà en gros, qui je suis.
Bah parfait, ça plante un petit peu le décor. Et puis du coup, est-ce que professionnellement tu peux me dire quel métier tu exerces aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je suis praticienne en hypnose périnatale.
Ok, très intéressant. Avec un début de vie professionnelle qui était un petit peu différente, hein ?
C'est ça. J'ai été infirmière, donc j'ai été diplômée infirmière en 2014 jusqu'en 2019. Et ensuite, après formation, donc je suis praticienne en hypnose périnatale depuis là, j'ai ouvert mon cabinet en septembre 2020.
Ah oui, c'est tout récent. Voilà. Est-ce que devenir infirmière pour toi, c'était une vocation depuis toute petite ou comment ça t'est venu ?
Pas du tout. J'avais personne dans mon entourage qui était dans le milieu médical ou paramédical. Et finalement, j'ai commencé d'abord en droit. Ensuite, j'ai fait une licence d'administration économique et sociale. Et finalement, c'est en commençant à travailler en foyer logement, en job étudiant en fait, que je me suis découvert une fibre soignante, on va dire. Donc, j'ai tout arrêté pour passer mon concours. Et puis, j'ai eu mon concours du premier coup. J'ai eu de la chance. Et donc, j'ai commencé l'école en 2011 à l'IFSI d'Angers. Et voilà, donc diplômée après en 2014. Donc non, c'était pas une vocation d'enfance ou autre.
C'est sympa ce que tu dis, ça t'est venu du coup sur cette expérience pro du coup en foyer.
Ouais.
Et c'est là que tu t'es dit, finalement le milieu paramédical social, ça me tend très bien.
C'est ça, il y avait dans ma licence, c'était administration économique et sociale et j'aimais beaucoup le côté social qui finalement restait quand même très management. Et puis voilà, c'était vraiment le terrain en fait qui m'a fait découvrir le soin. Mais c'était un peu de loin puisque c'était agent d'accompagnement et j'ai eu envie d'approfondir.
C'est génial comme histoire, je trouve. Et après l'obtention du diplôme, du coup, après ces 3 ans d'études, tu t'es orientée vers quel type d'établissement pour ton premier poste ?
Alors du coup, j'ai fait que quelques mois de CHU, j'ai fait les remplacements d'été en fait et finalement, je me suis très vite orientée vers le domicile. Donc d'abord en tant que salariée d'une association pendant 2 ans et demi à peu près. Sur Angers, et quand j'ai déménagé sur Nantes, je me suis installée en fait à mon compte en libéral. Je me suis associée avec une autre infirmière et toujours à domicile, mais en libéral.
C'est marrant, ça veut dire que l'idée d'être indépendante, ça trottait déjà dans un coin de ta tête.
C'est ça, finalement, la découverte du domicile en tant que salarié, ça a été hyper formateur, puisqu'on sort de l'école et c'est vrai qu'on apprend plein de choses. Mais ça permet de pas se lancer dans le bain tout de suite du libéral, et du coup, ça a été le bon palier. Mais oui, ça me trottait depuis un moment en tête. Ouais.
Et alors l'hypnose, elle est rentrée dans ta vie de quelle façon et à quel moment ?
Alors en fait, j'ai découvert l'hypnose en stage, en pédiatrie, quand j'étais au CHU d'Angers. Ça a été pour ma première perfusion. J'avais jamais perfusé ni adulte ni enfant. Et la première personne, ça a été un enfant d'une dizaine d'années. Oui, j'ai démarré fort. Et j'ai eu de la chance parce que ce jour-là, en fait, dans le service, il y avait, alors je crois que c'était une infirmière, mais en tout cas qui était formée à l'hypnose et elle est venue avec moi. Et finalement, ce petit garçon qui était très récalcitrant au début, qui bougeait le bras, qui disait non, non, elle a commencé en fait à faire de l'hypnose avec lui. Et là, révélation, quoi. En quelques minutes, il s'est détendu. Alors, je n'existais plus pour lui et c'était très bien parce que moi, j'ai pu faire mon soin tranquillement. Et lui, le bras ne bougeait plus. Et finalement, à la fin, il avait rien senti. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'hypnose et pour le coup, c'était assez magique.
Ah ouais, une première rencontre assez fascinante, quoi, déjà
dès la première approche. C'était assez impressionnant, quoi, parce qu'il avait vraiment rien senti. Donc, tant mieux. Et puis, donc après, ça m'a un peu trotté. J'ai fait mon mémoire sur la gestion de l'appréhension du soin chez l'enfant. Donc je me suis un peu remise dans l'hypnose à ce moment-là. Et puis après, voilà, ça m'était un peu sorti de la tête. Quelques années après, j'ai fait moi de l'hypnose en tant que patiente. J'étais un petit peu perdue dans ma vie, j'avais besoin de me faire accompagner, donc je me suis tournée vers une praticienne en hypnose. Et puis voilà, j'ai commencé le libéral et finalement ça me trottait en tête, donc j'ai commencé à chercher les formations qui étaient disponibles pour les soignants. Finalement, la personne qui m'avait accompagnée, elle en tant que praticienne en hypnose, avait été formée dans un institut sur Rennes. C'est un institut qui s'appelle Émergence, qui est disponible sur Rennes et sur Paris et qui est réservé en fait aux professionnels de santé. Donc c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi parce qu'il y a plein de formations différentes et c'est un peu difficile de s'y retrouver. Donc tout naturellement, je me suis dirigée vers cet institut et j'ai commencé une formation donc en 2017 en hypnose et thérapie brève qui dure en fait, c'est sur 2 ans, à raison de 3 jours tous les 2 mois.
D'accord, ok, donc c'est quelque chose qu'on peut faire peut-être en complément d'un poste qu'on occupe ou en complément de quelque chose, quoi. C'est pensé pour ça.
C'est ça, exactement. C'est parce qu'en fait, on était à peu près 50 dans ma promo, entre 40 et 50, on était tous soignants. Donc c'était intéressant parce qu'il y avait des dentistes, des médecins, des sages-femmes, des infirmières, enfin il y avait vraiment de... Et ça permettait voilà, de glisser ces 3 jours tous les 2 mois et de continuer son activité professionnelle à côté.
Donc cette formation, tu t'y inscris. Est-ce qu'il y a une sélection d'une forme ou d'une autre, un dossier, une lettre de motivation, un entretien ?
Alors non, il y a juste l'inscription et prouver que voilà, on est soignant, qu'on est professionnel de santé. C'est vraiment la base pour eux. Et ensuite c'est une inscription voilà, via Internet classique. Moi, de mon côté, j'avais fait des démarches, étant donné que j'étais en libéral auprès de l'URSSAF pour une aide financière. Parce que cette formation, elle a un coût d'environ 4000 euros. Donc, c'était aussi une réflexion en amont. Et du coup, j'ai eu la moitié de prise en charge, moi, par l'URSSAF. Donc, ce qui m'a beaucoup aidée. Et ensuite, on peut être mensualisé. Donc, ce qui lisse, en fait, vu que c'est sur 2 ans, ça permet d'accéder assez facilement à cette formation.
Je fais juste un petit aparté pour les personnes qui nous écoutent. On en discutera ensemble toutes les deux, mais on essaiera de mettre des références dans la description de l'épisode s'il y a des personnes qui veulent voilà, des ressources pour... Pour tout ça, on en reparlera, mais on essaiera de glisser un maximum de ressources pour les personnes qui cherchent peut-être à se reconvertir. Donc, il faut, pour cette formation, il faut légalement être diplômé d'un diplôme médical paramédical pour pouvoir la suivre.
C'est ça, en fait, ils nous demandent le numéro Adélie.
Donc, tu as vu des infirmiers, des sages-femmes, des dentistes, c'est intéressant, ça. J'ai jamais pensé au fait qu'on puisse trouver de l'hypnose aussi dans un cabinet dentaire, mais oui, ça paraît pas...
Si, mais il y avait même orthodontistes. Il y avait dentistes et orthodontistes, et en fait, de ce qu'ils nous ramenaient de leur pratique. Après, parce que vu que c'était sur 2 ans, c'était intéressant, on échangeait aussi comment chacun amenait l'hypnose finalement dans son métier. Et non, les dentistes, pour le coup, moi, je cherche un dentiste qui fait de l'hypnose sur Nantes parce que je me dis que c'est vachement bien, quoi.
Tu m'étonnes. Ah ouais, déjà, l'angoisse de chaque rendez-vous, les bruits, les trucs. Ah ouais, non, mais c'est le meilleur endroit où on puisse rêver d'avoir un peu d'hypnose. C'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais maintenant que tu le dis, ça paraît assez évident que oui, c'est vraiment la bonne personne pour ça, quoi. Avant qu'on rentre vraiment dans le détail, j'ai une question un peu stupide, mais je pense qu'il faut la poser. Qu'est-ce que c'est concrètement l'hypnose ?
Ah, alors l'hypnose, c'est vrai que souvent il y a l'image de l'hypnose qu'on voit à la télé avec les gens qui font faire la poule à d'autres gens. Donc c'est aussi ça, la première partie de mon métier, c'est de vulgariser en fait l'hypnose. Et en fait, c'est plus le praticien en hypnose, il va aider la personne à rentrer dans ce qu'on appelle un état de transe. Alors l'état de transe, c'est pas justement on dort pas, on est vraiment conscient. Moi souvent pour donner une image, j'explique que quand par exemple on fait le chemin tous les jours maison travail, souvent des fois on arrive au travail et on se dit mais j'ai pas vu la route passer. On l'a fait machinalement. Mmh. C'est vrai qu'on arrive, on l'a pas vu. Et en fait c'est un peu ça l'état de transe. Il y a une partie de nous qui est toujours consciente, on sait ce qu'on fait, mais il y a une autre partie qui est un peu plus inconsciente, pardon, à laquelle on accède. Et donc moi, mon rôle en fait, c'est d'amener la personne à cet état de transe provoqué, afin qu'elle puisse avoir accès en fait à toute cette partie un peu enfouie en nous. On met des barrières mentales, des raisonnements, et on s'écoute plus vraiment profondément. On ne trouve plus nos ressources. Et moi, mon rôle, c'est ça, c'est d'ouvrir cette petite porte en fait vers notre inconscient, en fait.
Donc, ça veut dire que l'hypnose, on en a presque tous chacun en nous. Et toi, tu es là pour révéler ce potentiel et puis pour pour s'en servir pour faire pour traiter un problème ou pour aller plus loin.
Exactement, en fait, j'aide les personnes à accéder à leurs ressources. Je mets rien dans la tête des gens, en fait, on est tous plein de ressources, plein de choses et l'état de transe, oui, il est déjà en nous. Alors après, il y en a qui y accèdent plus facilement que d'autres, mais moi, voilà, mon rôle c'est d'être ce vecteur en fait pour accéder à ça.
Est-ce que toi tu vois des personnes qui ont des je trouve pas le bon mot mais des prédispositions ou des facilités pour rentrer dans cet état de transe ? Est-ce que c'est plus simple pour certaines personnes ?
Alors, c'est plus simple pour certaines personnes, effectivement. Il y en a qui, naturellement, vont un peu plus facilement se laisser aller. C'est pour ça aussi que chez les enfants, même si c'est pas forcément une hypnose très formelle, ça marche tout de suite parce que les enfants, ils ont un imaginaire hyper développé et ils se laissent tout de suite emmener. Chez les adultes, j'ai jamais eu quelqu'un de très réfractaire parce qu'en général, quand on vient me voir, c'est aussi qu'on a envie. La base aussi d'une séance d'hypnose, c'est la motivation, la coopération. Donc, mais oui, il va y avoir des gens plus susceptibles de rentrer en transe facilement, on va dire.
Et à l'inverse, est-ce que... Alors, je crois que j'ai souvent parlé d'hypnothérapeute dans le mail que je t'ai envoyé, mais en fait, tu dis souvent praticien en hypnose. Alors, je ne sais pas trop quel terme il faut utiliser.
C'est un peu délicat, cette notion de terme, parce qu'en fait, le métier d'hypnothérapeute, praticien en hypnose aujourd'hui, bah, n'importe qui peut le faire. En fait, il n'y a pas de forme. Moi, j'ai fait une formation, j'ai un diplôme, mais en fait, si quelqu'un décide du jour au lendemain de se reconvertir et qui fait une formation de, je sais pas, admettons 48 heures, bah, il peut très bien demain s'installer. Donc, le terme d'hypnothérapeute, il est pas accessible à tout le monde normalement. Il faut être soit, enfin, moi, de ce qu'on m'a dit en formation, voilà, il faut plus être déjà psychiatre. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai préféré rester au terme de praticien en hypnose qui me convient à moi. Après, vous verrez d'autres qui utilisent hypnothérapeute. C'est vraiment après au bon vouloir. Personne, ouais.
Donc n'importe qui peut devenir donc dans les textes, dans ce que tu racontes, mais est-ce que en dehors de ça, toi en tant que praticien, il faut que tu aies besoin d'une capacité, d'un don, quelque chose, parce que je sais qu'il y a un côté un petit peu mystique aussi autour de tout ça. Ou est-ce que concrètement, alors quand je dis n'importe qui, c'est pas n'importe qui dans la rue, mais est-ce que n'importe qui a envie de devenir praticien en hypnose peut le devenir ?
Alors, il n'y a pas de don. C'est vraiment des techniques d'apprentissage, au même titre que, par exemple, en tant qu'infirmière, on apprend l'entretien thérapeutique, l'alliance thérapeutique. Donc, c'est vraiment des techniques qu'on acquiert pendant la formation. Après, effectivement, il faut déjà de base avoir envie, être intéressé par ça. Et puis, chaque praticien développera sa manière de faire, mais c'est pas quelque chose, on n'est pas avec un don d'hypnose. Non, ça s'apprend vraiment en formation. Mais c'est pour ça que je pense que la formation est essentielle. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéressait vraiment de faire une formation réservée aux professionnels de santé qui était vraiment très enrichissante et très complète.
Elle a répondu à tes attentes, cette formation ? C'est ce que tu attendais d'une formation de ce type-là ?
Je m'y suis vraiment retrouvée, effectivement, parce qu'on sentait qu'ils savaient de quoi ils parlaient, justement, et on partait pas, justement, dans tous ces trucs un peu mystiques que des fois les gens associent à l'hypnose. C'était... voilà, on parlait en tant que soignant, en fait, et c'était vraiment pour moi quelque chose, un gage de qualité un petit peu. Et puis le fait de, les échanges, en fait, étaient hyper enrichissants. Ce que je disais, c'était des soignants, mais un peu de tous les milieux, et c'était hyper enrichissant pour la pratique.
Ah, j'imagine. Ouais, de se rapprocher finalement de quelque chose d'un peu cartésien, ancré dans la réalité, c'était peut-être rassurant, je vois ce que tu veux dire, ouais. pour intégrer ça. Dans sa pratique. Est-ce que tu peux me dire, très grossièrement, je pense qu'il y a 10 milliards de choses à dire, mais à quoi ressemble une séance d'hypnose ?
Alors, une séance d'hypnose, ça commence toujours par un échange, en fait. Moi, c'est souvent des femmes que j'ai, puisque je me suis spécialisée en périnatalité. C'est d'abord un échange, de connaître la personne, de savoir quel est son vécu, ce qu'elle attend aussi de moi, ce qu'elle attend de l'hypnose, parce que souvent, c'est une première expérience. Pendant cet échange, je présente aussi ma manière de faire, qui je suis. On définit ensemble un objectif un peu précis. Parce que je rappelle aussi que l'hypnose, c'est pas quelque chose de magique, en fait. Il y a vraiment, les gens vont pas sortir de la séance et miracle, ça amène du travail, en fait. Et donc, on échange pendant une bonne partie de la première séance et les suivantes. Et ensuite, on rentre dans une espèce d'hypnose un peu plus formelle. Et là, tout cet échange qu'on a fait avant, moi, me sert énormément pour faire... en fait, j'ai des outils thérapeutiques, mais je les adapte. C'est vraiment des séances individualisées. Je me sers du vécu de la personne, de sa façon de parler, de sa façon d'être, pour créer, en fait, pendant la séance, la transe, et qu'elle soit le plus individualisée possible, en fait.
D'accord. Et d'un point de vue pratique, à nouveau, la personne, elle est allongée, assise, les yeux fermés ?
Elle est assise. En général, les yeux se ferment. J'amène à ce que les yeux se ferment. En fait, en hypnose, on aime bien la position assise parce que c'est vraiment un travail. En fait, la personne n'est vraiment pas inactive. Elle fait beaucoup plus de travail que moi, la personne. Donc, la position assise aide à rester justement actif.
Ça me fait penser à... Bon, enfin, aucun rapport, mais à la fois, oui. Je me suis mise à la méditation il y a peu de temps et rien à voir. La méditation allongée et la méditation assise, aucun rapport. Vraiment, la méditation allongée, c'est tout de suite partir vers un état un peu de somnolence ou voilà. Et quand on est assis, on reste actif. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc, tu disais que tu t'étais spécialisée dans la périnatalité. Donc, à quel moment de... Oui, bah, périnatalité, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais à quel moment, à partir de quel moment tu interviens? C'est plutôt ça que je voulais dire.
Alors, du coup, moi, j'interviens en fait à partir du désir d'enfant. Je me suis... Donc, en fait, après ma formation générale, j'ai fait une formation auprès de Lise Bartoli à Paris. En hypnonatale. Et donc, j'ai choisi de m'y orienter parce que c'était vraiment un domaine qui m'intéressait et j'avais pu, moi, le tester pendant ma grossesse. Mmh. Et donc j'ai choisi de me spécialiser. Donc, j'accompagne les couples du désir d'enfant jusqu'au postpartum.
Ah oui, ça fait un beau champ de compétences.
Ben, c'est ça. En fait, on croit se spécialiser, mais en fait, ça reste quand même très, très large.
C'est ça, ah ouais.
Et du coup, ça englobe. C'était vraiment un domaine où je trouvais... Ça pouvait un peu manquer d'accompagnement et l'hypnose correspond pour moi tout à fait à cette période, en fait.
Donc, il peut t'arriver de recevoir des couples dans ton cabinet.
Voilà. Alors, moi, je suis ouverte à la future maman et aux coparents, sachant qu'en général, les coparents viennent moins. En fait, ils sont souvent un peu plus réticents. Si ce n'est que pour le suivi de grossesse, vraiment l'hypnonatal, il y a au moins 2 séances où c'est vraiment bien que le coparent soit là. Donc, en général, ils sont présents. Mais j'accueille en tout cas, oui, les deux.
Et quels sont les principaux motifs de consultation, je dirais?
Alors, pour le désir d'enfant, c'est beaucoup de femmes qui sont soit déjà dans des parcours PMA, soit qui essaient depuis quelques mois de tomber enceinte et que ça ne marche pas. Donc là, ça va vraiment être, elles viennent pour un accompagnement psychologique, en fait. Elles ont déjà l'accompagnement médical, mais comme elles disent, c'est des rendez-vous de 10 minutes un peu rapides. Et elles ont vraiment besoin de trouver un lieu où elles peuvent aussi en parler, parce que c'est pas toujours évident d'en parler dans son entourage ou autre. Et elles ont souvent un gros besoin de lâcher prise. Elles sont stressées, angoissées, et surtout omnibulées par le fait de tomber enceinte. Et du coup, ça prend toute la place, trop de place en fait dans leur vie et du coup elles ont vraiment ce besoin d'être accompagnées. Ensuite, du coup il va y avoir les suivis de grossesse, préparation à l'accouchement. Alors c'est vraiment en parallèle des préparations à l'accouchement faites par les sages-femmes. C'est vraiment, je ne remplace absolument pas une sage-femme. Hein. C'est vraiment un plus que les femmes peuvent vouloir. C'est beaucoup de femmes qui veulent essayer d'accoucher sans péridurale ou en tout cas le plus naturellement possible et qui ont ce besoin. Parce que finalement, dans la préparation à l'accouchement, ça va être une préparation à l'auto-hypnose pour le jour J. Après, ça va être aussi le début de grossesse, le stress, l'angoisse du chamboulement, en fait, ou aussi les maux de grossesse. Les nausées, les remontées acides, l'hypnose peut aider dans ce cadre-là.
Ah oui, d'accord, même sur du somatique. Ah, c'est intéressant, ouais. Ça.
Alors voilà, après, le somatique, c'est toujours le médecin d'abord. Moi, j'oriente toujours, je demande toujours si elles ont vu leur médecin. Mais effectivement, il y a des petites techniques qui peuvent aider à soulager les symptômes.
Est-ce que tes patientes repartent avec des exercices à domicile ou des choses que tu arrives à leur préparer pour poursuivre dans l'hypnose à la maison?
Alors, pour l'hypnonatal, pour le suivi de la préparation à l'accouchement, effectivement, elles repartent avec un audio, en fait. Entre chaque séance, il y a un audio qui, là, est plus généraliste parce qu'en fait, c'est le même audio pour tout le monde, mais ça leur permet, elles, de s'entraîner et ça leur permet d'apprendre à se mettre en état d'auto-hypnose parce que le jour J, je serai pas là. Donc, elles-mêmes, elles s'entraînent et voilà. Mais oui, elles repartent avec des petits exercices à faire.
Et y compris le jour de l'accouchement, j'imagine, elles peuvent se passer l'audio pour se remettre dans un état d'auto-hypnose.
C'est ça, oui.
Ah, c'est top. C'est top. Ouais, c'est vraiment l'idée d'accompagner les gens à fond, quoi, jusqu'au bout. C'est génial, je trouve. Est-ce que tu es amenée à travailler avec d'autres professionnels? Donc, professionnels médicaux, j'ai bien entendu, mais par exemple, je sais pas, sophrologue, psychologue ou encore d'autres professions.
Alors, il y a beaucoup de femmes, par exemple, en PMA qui sont accompagnées aussi par l'acupuncture en parallèle. Ça les aide beaucoup. Après, effectivement, moi, je fais partie du parcours de soins de la personne, elle va aller vers les psychologues. Je peux orienter aussi si moi j'estime que l'hypnose va pas être suffisante. Je connais aussi mon champ de compétences et du coup j'oriente en fait si j'estime que pareil en postpartum, si on s'approche plus d'une dépression du postpartum qui est vraiment ancrée, je vais réorienter vers son médecin, sa sage-femme et pas il faut aussi connaître ses limites en tant que thérapeute en fait, et du coup effectivement je peux orienter vers telle ou telle personne si je ressens le besoin. Oui.
Est-ce que, alors je sais que ça fait pas des années que ton cabinet est ouvert, mais est-ce que tu as déjà été face à une situation d'échec, quelqu'un qui ne répond absolument pas à l'hypnose, ou quelqu'un à qui tu as dit écoutez, j'essaye mais j'y arrive pas, ça t'est déjà arrivé?
Alors d'échec, non. Après effectivement il y a des personnes qui vont pas forcément s'y retrouver. Parce que, ou alors des fois il y a aussi des personnes qui attendent un résultat tout de suite à la sortie de la première séance et du coup bah elles sont un petit peu déçues de ça, elles sont pressées en fait et du coup ça reste quand même un travail sur, alors c'est pas des, c'est, on parle de thérapie brève, hein, on part pas sur des années, mais du coup après en règle générale non, les séances se passent toujours bien et elles rentrent facilement en état d'hypnose.
Et comment est-ce que ces personnes ont entendu parler de toi ? Est-ce que c'est du bouche à oreille, ou est-ce que tu as des professionnels dans ta ville qui t'ont recommandé, ou comment ça s'est passé ?
Un petit peu des deux, en fait. Je commence à avoir un petit peu de bouche à oreille, donc c'est assez valorisant pour moi en tant que thérapeute. Et il y a aussi le fait que j'étais infirmière avant, je connais aussi certains praticiens médicaux de ma ville. Et voilà, c'est un petit peu un tout. J'essaie aussi de me faire connaître. Je me suis présentée auprès des médecins, des sages-femmes, pour voilà aussi là, parce que ça reste un peu flou encore l'hypnose, c'est pas hyper pratiqué, et donc c'est mon rôle aussi pour l'instant de faire découvrir ma pratique.
Bon, je crois que toi et moi, du coup, mais on en a déjà parlé un peu avant, on a vu ces émissions à la télé où t'as des gens qui font la poule sur un plateau, enfin bref, c'est assez dramatique, mais le fait qu'on parle de plus en plus d'hypnose, est-ce que pour toi c'est une bonne chose, ou est-ce que c'est une mauvaise chose parce que ça donne une mauvaise image de l'hypnose ?
Alors la bonne chose, c'est qu'on parle de l'hypnose, effectivement, après, on n'en parle pas souvent en bien et ça fait peur aux gens, en fait. Donc les gens arrivent avec plein d'appréhension ou ne viennent pas, du coup, parce qu'ils ont peur de ça. Et c'est pour ça que la formation, moi, je mets beaucoup en avant ma formation et je dis souvent aux gens, même s'ils vont voir un thérapeute autre, de toujours regarder la formation des gens, parce que c'est quand même gage de qualité. Et tant qu'il y aura des gens un peu entre guillemets mal formés qui feront un peu n'importe quoi, malheureusement ça décrédibilise ce que moi après je peux proposer. Et c'est aussi pour ça que je me présente auprès des médecins, des sages-femmes, du corps médical, pour montrer que voilà, c'est sérieux ce que je fais en fait, et je le sors pas, je l'ai pas inventé, il y a vraiment des retombées importantes et ouais, pour l'instant ça décrédibilise plus que ça ne crédibilise la profession. Ouais.
Et la deuxième formation que tu avais faite à Paris, elle avait duré combien de temps, celle qui était sur la périnatalité ?
Alors du coup, c'était sur 48 heures, c'était en visio du coup avec le Covid, mais du coup c'était vraiment voilà, une spécialisation en plus, donc qui a duré 48 heures auprès. Donc Lise Bartoli, c'est quelqu'un qui travaille en maternité depuis des années, qui est psychologue si je ne me trompe pas, qui a vraiment développé sa méthode. Et du coup, c'était vraiment spécifique sur ces 4 séances avant l'accouchement.
Ok. Est-ce que tu as d'autres envies, d'autres projets de formation, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu as en tête pour la suite ? Ou est-ce que pour le moment, la spécialisation, ou en tout cas le champ de compétences que tu as trouvé te convient ?
Alors, je veux rester dans ce champ de compétences, que c'est vraiment quelque chose qui a un attrait pour moi et je m'y retrouve vraiment professionnellement. Et de fait, je voudrais approfondir. J'ai vu qu'il y avait un DU, en fait, psychopathologie, pardon, de la femme enceinte, qui est sur Paris. Donc, je suis en train de voir pour peut-être l'année prochaine. Je me laissais aussi un an d'expérience et puis voir pour approfondir, parce que je me rends compte que ça a beau être très spécialisé, ça reste très large. Et les femmes viennent toutes avec un vécu, avec une histoire différente, et j'ai vraiment envie d'approfondir mes connaissances.
Ouais, c'est ce que tu disais, à la fois tu te spécialises, puis à la fois ça reste tellement vaste, quoi. T'as l'impression de prendre une frange de la population, même à un moment donné de leur vie, et en fait il reste tellement à apprendre à chaque fois.
Exactement, c'est vraiment le retour que j'ai après ces premiers mois, et même des femmes qui viennent, on pense pour la même chose, entre guillemets, en désir d'enfant PMA, mais en fait à chaque fois c'est quelque chose de différent, parce qu'à chaque fois elles ont aussi des protocoles différents, avec des femmes qui partent à l'étranger, par exemple, pour des dons d'ovocytes, donc c'est encore autre chose. Avec c'est vraiment très, très large et très, très enrichissant pour moi.
En fait, t'as l'air hyper épanouie. Ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Bon, pas de regrets, alors, sur cette reconversion, pour toi, c'est du positif.
Absolument pas. C'est vrai que j'ai adoré mes années d'infirmière, mais je sentais que voilà, j'en avais fait le tour et j'avais aussi choisi ce métier parce que pour moi, c'est un métier qui est super large. Justement, on a un diplôme, mais on peut aussi en faire plein de choses.
Bien sûr.
Et pour le coup, là, je me suis vraiment retrouvée. Je me sens bien professionnellement, quoi.
Ah, c'est top. Bon, alors pour les personnes qui nous écoutent, on met ton site internet, ton compte Instagram. Je mets tout dans la description du podcast. Voilà, puis le bouche à oreille va à nouveau fonctionner s'il y a des personnes qui sont de ta région et qui nous écoutent. Bah, merci beaucoup, Charline, c'était hyper hyper intéressant de t'entendre parler de tout ça.
Bah, de rien, ça m'a fait super plaisir.
On va finir cet épisode avec le mythique, j'ai envie de dire. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Portrait chinois, voilà, avec des petites questions pour apprendre à te connaître un petit peu plus. À nouveau, j'ai un petit peu adapté les questions parce que voilà, tout le monde n'évolue pas dans le même milieu. La première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique ?
Alors, j'y réfléchis et je dirais une baguette magique, bah, ça serait ce qu'on parlait, la reconnaissance de l'hypnose par tout le monde. Et ça aiderait notamment, par exemple, je pense à la prise en charge financière, tout simplement, parce que vu que c'est pas reconnu, par exemple, par la sécurité sociale, c'est pas remboursé, il y a encore que quelques mutuelles qui le font, et du coup, de fait, ça empêche certaines personnes d'y accéder, et je trouve ça dommage pour l'instant, parce que ça serait vraiment un plus pour... Ça donne un écart, en fait, entre certaines personnes, et je trouve ça dommage.
Complètement, oui. La phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail ?
Je dirais « comment allez-vous ? » Ça commence toujours comme ça, mais c'est aussi la base. « Comment allez-vous ?» quoi.
C'est la base de la conversation. Question suivante, plutôt thé ou café ?
Café le matin et chai latte tout l'hiver.
Oh là là, ma passion.
Moi aussi.
Ma passion. On peut même se faire glacer en été. Hein, mais j'ai pas poussé le vice à ce point-là, mais si on veut vraiment le boire toute l'année, il y a des solutions. Question suivante, plutôt crocs ou baskets ?
Bah, du coup, talons maintenant. J'ai retrouvé les talons.
Oh,
ouais.
Le luxe, les bijoux, le... Oh là là.
Tout le rêve des infirmières quand on est en vacances.
Très envieuse. question suivante, plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an ?
Bah, je dirais 10 lieux avant parce que j'ai beaucoup évolué avec mon diplôme d'infirmière, mais là, je me suis lancée pour, j'espère, 10 ans dans le même, dans le même domaine. Ouais.
C'est sûr, une belle lancée. La dernière question, si tu n'avais pas exercé ce métier, vers quelles études ou vers quel métier te serais-tu orientée ?
Et bah, du coup, il y a plein de métiers qui sont hyper intéressants. Tous les mois, je change d'avis. Enfin, je me dis, oh, ça a l'air bien. Donc, peut-être journaliste, ça me tentait, mais il y en a plein, quoi.
Encore tellement de choses à faire et à voir et à découvrir.
En cours, une vie pour tout.
Ouais, moi, je me dis souvent ça aussi. J'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que je veux faire. Bon, bah, un grand merci, Charline, pour cet entretien. C'était vraiment très, très intéressant et c'est un bonheur de voir quelqu'un d'aussi épanoui, en tout cas. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ? D'autres formations
Ouais, c'est ça, d'autres formations, d'autres expériences. Mon cabinet débute, donc que ça marche. Avec le Covid, en plus, ça a été un petit peu compliqué, donc j'espère que ça va bien rouler d'ici quelques temps.
Ah ouais, c'est sûr que ça n'a pas démarré pour toi au moment le plus facile. Hein.
Non, pas du tout.
Bon, bah, un grand merci, Charline, je t'embrasse.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt. Et voici qui conclut cette discussion passionnante avec Charline. Comme promis, je vous glisse en description de l'épisode un maximum de références et ressources en lien avec l'hypnose, ainsi que les coordonnées de Charline. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.